Europe 1, votre matinale info, Thierry Dagiral.
Toute l'information, bonjour Marguerite Lefebvre.
Bonjour Thierry, bonjour à tous.
Europe 1, il est 7h, bon réveil.
Moi je serais presque plutôt pour un vrai confinement une fois qu'on se débarrasse vraiment de ça, plutôt que faire des petites mesures et que nous, en tant que professionnels, ça nous retarde à l'échéance de la réouverture.
À Nice, les habitants attendent la décision des autorités. Le préfet pourrait annoncer un reconfinement le week-end pour stopper la flambée de l'épidémie. Les annonces seront faites d'ici ce soir.
Annonce territorialisée, c'est une première. Le confinement jusqu'à là n'était envisagé qu'à l'échelle nationale. L'exécutif change donc de stratégie.
Malgré la pression, la ministre de l'Enseignement supérieur maintient son enquête à l'université. Elle dénonce l'emprise des théories islamo-gauchistes.
Et puis en football, après son récital face à Barcelone, le PSG est de retour en France. PSG Monaco, c'est le choc de cette 26e journée.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Mais pour commencer ce journal, on vous en parlait hier. L'Algérie a décidé de libérer une trentaine de prisonniers d'opinion.
Parmi eux, le journaliste ancien correspondant d'Europe 1, Khaled Drareni. Il a passé 11 mois en prison, condamné notamment pour atteinte à l'unité nationale. Il est devenu le symbole du combat pour la liberté de la presse en Algérie. Il est aujourd'hui un homme libre et il est en ligne avec nous.
Sur Europe 1, bonjour Khaled Drareni.
Bonjour.
Première question, Khaled, comment allez-vous ?
Eh ben, je vais très bien. J'ai eu le plaisir de retrouver ma famille, de retrouver mes amis, j'ai retrouvé tous mes collègues, de tous ceux qui m'ont soutenu depuis le premier jour. Ouais. J'étais libre même en prison, mais c'est agréable de retrouver cet air de liberté et de voir le ciel bleu.
Bien sûr. Comment avez-vous vécu ces 11 mois passés en prison ?
Comme celui d'un journaliste injustement emprisonné pour avoir exercé son travail en toute liberté. Parfois, je me disais, ma place n'est pas en prison. Et parfois, je me dis, non, peut-être que ta place est en prison, justement, parce que tu as exercé ton travail avec la sincérité qui est la tienne vis-à-vis de tous ceux qui te lisent et de tous ceux qui te font confiance. J'ai accepté cette épreuve avec beaucoup de sérénité, même si je savais qu'au fond, ma place n'était pas là.
Khaled, est-ce que vous avez pu suivre la mobilisation qui a grandi autour de votre cas, de votre situation ?
Absolument pas, puisque ma seule source d'information, c'était le journal de 20h de la télévision publique, mais grâce aux avocats qui venaient me voir régulièrement. Donc je savais qu'il y avait une vague de mobilisation exceptionnelle, et c'est ça qui nous réchauffe le cœur. Et comme je le dis hier et aujourd'hui, ce soutien est la preuve de notre innocence.
En septembre, vous avez été condamné à 2 ans de prison, condamnation en appel. Est-ce qu'à ce moment-là, on perd espoir ?
À aucun moment je n'ai perdu espoir, même si j'ai subi comme une gifle ces deux verdicts, celui du 10 août et celui du 15 septembre. J'ai toujours gardé espoir en ceux qui me soutiennent, en ceux qui m'aiment. J'ai juste attendu que les semaines passent, que les mois passent. C'était long, mais j'étais persuadé que le salut viendra un jour. Et voilà, ça aura duré 11 mois en tout.
Khaled, est-ce que vous allez continuer à faire votre métier comme avant ?
C'est la seule chose que je sais faire, être journaliste, faire du journalisme comme je sais faire, comme cette responsabilité que j'ai d'informer les gens. Pour moi, le journalisme, c'est le devoir d'informer et j'éprouve ce devoir. Je continuerai à faire mon travail de journaliste avec la sincérité qui est la mienne. Je suis un journaliste indépendant et je continuerai à me battre pour la liberté de la presse en Algérie. Je ne suis pas un homme politique, je laisse la politique aux politiciens et moi, je m'occupe de ce combat qui est déjà très important et qui est monumental. Je continuerai à le faire de la même manière que je le fais depuis le début. Et c'est les risques du journalisme que j'entends accepter.
Merci beaucoup, Khaled Drareni. Merci d'avoir été en ligne avec nous.
Merci beaucoup.
Khaled Drareni, ancien correspondant d'Europe 1, libéré donc après avoir passé 11 mois dans les prisons algériennes. Europe 1, 7h04. En France, l'actualité, bien sûr, Marguerite, c'est ce tour de vis attendu dans la région de Nice.
La situation y est préoccupante. Plus de 700 cas pour 100 000 habitants. C'est 3 fois la moyenne nationale. Les consultations vont se poursuivre aujourd'hui. Mais selon nos informations, le préfet devrait annoncer un reconfinement le week-end. Et Jérôme, qui est restaurateur à Nice, n'y est pas opposé.
Moi, je me sens déjà plus tellement libre depuis presque un an. On est arrivé à jongler un peu cet été. On a réussi à ouvrir, mais avec des mesures. On n'a pas signé à la base pour faire ça, pour faire des boîtes, des tupperwares et de voir des gens masqués chez nous. Quoi. Moi, je serais presque plutôt pour un vrai confinement une fois qu'on se débarrasse vraiment de ça, plutôt que faire des petites mesures, des 18h, des 20h, et que nous, en tant que professionnels, ça nous retarde à l'échéance de la réouverture, vous voyez ce que je veux dire. Moi, je rêve que d'une chose, c'est de réouvrir, de reprendre la vie classique, de revoir mes clients, etc. Mais maintenant, s'il faut passer par des sacrifices, je préfère en faire des vrais pour de vrai, et qu'on reparte sur une date pour nous et pour tout le monde de concret, quoi, un retour à la vie réelle.
Un restaurateur niçois au micro de Marion Gauthier. Jusqu'à présent, l'exécutif a toujours refusé l'idée d'un confinement local. Cette décision territorialisée marque-t-elle un changement de stratégie ? Le gouvernement, pour l'instant, botte en touche, Claudia Bertram.
Au sein de l'exécutif, on assure qu'il ne s'agit pas d'un changement de stratégie. L'appréciation locale de la situation, on le fait depuis des mois, souligne un conseiller ministériel. Pourtant, plusieurs fois réclamé par des élus ou des scientifiques, c'est la première fois qu'un confinement local est sérieusement envisagé. La semaine dernière, cette option a par exemple été écartée pour le cas de la Moselle, qui connaît également une explosion des contaminations. Mais à Nice, Olivier Véran l'assure, le gouvernement est fondé à prendre des décisions plus territorialisées dans les zones où le virus circule beaucoup. C'est en tout cas ce qui est plébiscité par le maire de Nice, Christian Estrosi. Et la question de l'acceptabilité au niveau local n'est pas prise à la légère, nous dit-on au ministère de la Santé. D'où les concertations menées entre les différents acteurs locaux. Et c'est le préfet qui doit remettre ses propositions à l'exécutif qui tranchera. Verdict d'ici ce soir.
Voilà, Claudia a évoqué à l'instant le cas de la Moselle, hein, où les autorités ont refusé le reconfinement. Nous serons en ligne avec le maire de Metz dans le journal de 8h. Et puis, notez bien aussi, 8h15, Renaud Muselier, le président de la région PACA, sera mon invité, Marguerite.
Dans les dernières 24 heures, plus de 22 000 nouveaux cas ont été détectés. La pression dans les hôpitaux est toujours très forte. Et voilà qui pourrait peut-être désengorger les urgences. À Lille, le CHU va ouvrir un tout nouveau service. Il s'agit d'une plateforme téléphonique. Les employés ne sont pas médecins, mais ils travailleront main dans la main avec le SAMU. Reportage de Maximilien Carlier.
Vous avez bien pris conscience des conditions d'exercice. Donc on est dans un univers clos, en open space.
Entretien entre la responsable des ressources humaines du CHU de Lille et un candidat. 15 opérateurs de soins non programmés vont être embauchés. Marie Lepers, manager à Pôle emploi.
On recherche des personnes qui vont avoir des capacités d'empathie, une disponibilité jour, nuit, week-end. Et des personnes voilà, qui vont pouvoir aussi avoir une capacité à gérer le stress et les sollicitations, des appels avec une intensité importante.
Car tout va se passer au centre de régulation du SAMU. Quand vous composez le 15, comme l'explique Patrick Goldstein, il n'y a pas que des urgences.
Il y a encore une fois des gens qui n'ont pas accès à Internet, il y a des gens qui sont en difficulté, il y a des personnes âgées, ils auront toujours ici la bonne réponse.
D'où l'intérêt de ces opérateurs pour orienter, pour aider, transmettre par exemple les coordonnées d'une pharmacie de garde, prendre rendez-vous chez un médecin.
Les renseignements médicaux, tenez-vous bien, ici c'est la moitié des appels. C'est-à-dire que 250 000 dossiers par an, au niveau du SAMU, sont des renseignements médicaux.
Et l'objectif de ce nouveau service, c'est de désengorger les urgences. Un projet pilote qui est amené à se déployer partout en France. Lille, Maximilien Carlier, Europe 1.
Les conséquences économiques de la crise vont durer des années. L'un des fleurons du commerce français, les Galeries Lafayette, n'anticipe pas de retour à la normale avant 2024. Voilà ce qu'annonce le patron des galeries dans le journal du dimanche.
7h08 sur Europe 1, restez avec nous dans un instant. La ministre de l'enseignement supérieur, Frédérique Vidal, maintient son enquête sur l'islamo-gauchisme à l'université, alors que 600 profs hier ont demandé sa démission. A tout de suite.
Europe 1, votre matinale info, Thierry Dagiral.
La suite du journal de Marguerite Lefebvre, une semaine après le début de la polémique. La ministre de l'enseignement supérieur prend la parole.
Frédérique Vidal s'exprime ce matin dans le journal du dimanche. Elle persiste et signe. L'islamo-gauchisme gangrène l'université selon elle. Hier, 600 enseignants-chercheurs ont appelé à sa démission dans une tribune publiée dans Le Monde. La ministre ce matin leur répond et c'est Pascal Sceau du JDD qui l'a interviewé.
Elle maintient le terme d'islamo-gauchisme. Elle ne dit pas que c'est un concept de sociologie ou quelque chose qui correspond à une réalité scientifique. Elle dit que c'est une réalité politique. Frédéric Vidal persiste dans sa volonté de conduire une enquête sur qu'est-ce que représente l'islamo-gauchisme dans l'université, comment il est présenté dans les enseignements et qu'elle veut confier à des chercheurs indépendants. À ceux qui disent qu'elle attaque la liberté académique, elle répond qu'elle a toujours été le défenseur ardent. Mais ce qu'elle dit, c'est attention, la liberté académique, ça fonctionne dans les deux sens. Les enseignants ont le droit de chercher, de mener leurs études sur tous les sujets qu'ils souhaitent, mais l'université, en tout cas, ne veut pas empêcher certaines questions d'être posées. lorsqu'elles le sont dans un cadre scientifique.
Pascal Sceau du Journal du Dimanche avec Caroline Baudry. Dans le Pays Basque, les pompiers ont réussi à maîtriser les incendies qui se sont déclenchés en montagne. Les feux ont été attisés par des rafales de vent. Plusieurs dizaines de randonneurs ont dû être évacués, mais il n'y a pas de victimes.
Le sport à présent, le football, on les a quittés radieux mardi soir sur la pelouse de Barcelone. Revoilà les Parisiens au Parc des Princes.
Cette fois pour affronter Monaco, c'est la 26e journée de Ligue 1. Le défi aujourd'hui, ce sera de ne pas se reposer sur ses lauriers, Julien Froment.
Cinq jours après son incroyable exploit en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain est vite redescendu de son petit nuage catalan. Car en Ligue 1, Paris, 3e, toujours à la lutte avec Lille et Lyon pour le titre, n'a pas de marge au classement. C'est pourquoi l'entraîneur Mauricio Pochettino maintient son groupe sous pression.
C'est ça notre plus grand défi, continuer à jouer chaque match comme si c'était le dernier. Si on pense qu'on sera plus tranquille après le résultat de Barcelone, je pense qu'inconsciemment, on ferait une grande erreur. Toutes les compétitions doivent être respectées, le football doit être respecté et nous devons toujours essayer de faire de notre mieux.
D'autant plus que l'adversaire du soir, l'AS Monaco, est en très grande forme. 11 matchs sans défaite et l'ambition d'accrocher le podium de la Ligue 1. Il y aura en plus de la revanche dans l'air à l'aller. Le PSG s'était incliné en principauté 3-2 après avoir mené 2-0. Un relâchement coupable à l'époque. Paris veut désormais prouver qu'il est capable d'enchaîner les bonnes performances contre les grandes équipes.
PSG-Monaco, c'est à 21h à suivre évidemment sur Europe 1.
Marguerite, on va terminer ce journal avec un anniversaire. 35 bougies pour le jeu vidéo Zelda.
C'est l'un des plus populaires au monde. Un jeu qui a su se transformer, s'adapter aux nouvelles générations. Un jeu à la musique entêtante, Clément Le Saffre.
En sortant son jeu d'aventure The Legend of Zelda, un an seulement après Super Mario Bros, Nintendo a écrit la première page d'une grande histoire du jeu vidéo avec des personnages iconiques et des musiques devenues cultes. Une grande histoire mais aussi une grande confusion. Contrairement à ce que laisse penser le titre, Zelda n'est pas le héros des jeux. Le chevalier blondinet et mutique, reconnaissable à son chapeau vert de lutin, lui, c'est Link. Zelda, c'est le nom de la princesse qui, à chaque épisode, lui demande de sauver son royaume. En 35 ans et une vingtaine de jeux, la saga a pris toutes les formes imaginables, de la 2D à la 3D, de la vue du dessus pixelisée au monde ouvert luxuriant, avec des chefs-d'œuvre comme Link's Awakening, Ocarina of Time et le dernier en date, Breath of the Wild, sorti en 2017. Avec aujourd'hui près de 100 millions de jeux vendus, la légende de Zelda est écrite en lettres d'or. Et ce n'est pas fini, Nintendo a d'ores et déjà annoncé deux nouveaux jeux pour les prochaines années. Le premier sortira en juillet.
Des petites musiques qu'on va avoir dans la tête toute la journée. Merci Clément Le Saffre.
Merci à vous Marguerite Lefebvre. Retour de l'info à 7h30 avec Lionel Gougelot.